Après 3 ans et demi de détention en Iran, Cécile Kohler et Jacques Paris sont sortis de prison. C'est ce qu'a annoncé sur X le président français Emmanuel Macron hier. On en parle avec Firouzeh Nahavandi, sociologue d'origine iranienne. Elle est au micro de Blaise van der Linden.
Firouzeh Nahavandi, bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Alors, on l'a appris hein, cette nuit, le couple de Français Cécile Kohler et Jacques Paris ont été libérés. Ils sont en liberté conditionnelle, mais ils sont arrivés à l'ambassade de France à Téhéran. Alors, pour commencer, Firouzeh Nahavandi, alors on imagine que pour eux, c'est un soulagement, mais c'est également un soulagement pour tous les opposants au régime et pour tous les gens qui ont été otages du régime iranien.
En effet, pour en tout cas les deux otages français retenus depuis 3 ans dans les geôles et dans des iraniennes et dans des conditions absolument abominables, bien évidemment que c'est un soulagement d'être sortis de cet enfer, même s'ils sont pas encore tout à fait libres, ils sont à l'ambassade de France et ils n'ont pas encore l'autorisation de quitter le territoire. Et cela, bon, évidemment, ça laisse un espoir pour tous les autres otages qui sont emprisonnés et maintenus dans les prisons iraniennes. Cela étant, c'est quand même bien le signe de la monnaie d'échange de ces otages qui sont retenus et d'abord emprisonnés pour oui pour un an et puis retenus jusqu'à ce qu'ils servent de monnaie d'échange.
Oui, on y reviendra à ce principe de monnaie d'échange, mais vous l'avez dit, des conditions atroces d'emprisonnement. Comment ça se passe en fait là-bas? Quelles sont ces conditions atroces? Malnutrition, manque de sommeil?
Bien évidemment, non pas qu'ils ne soient pas nourris, ce ne sont pas les otages du Hamas, mais malgré tout mal nourris, comme tous les prisonniers iraniens, maintenus dans des d'après les descriptions qui ont été données, tout le monde n'est pas à la même enseigne, mais en tout cas pour ceux qui des otages français maintenus dans des petites cellules sans lumière, sans lit, couchant à terre avec des néons allumés toute la nuit. Donc effectivement, on est dans la torture blanche, hein, et donc avec très peu de sorties, 3 fois par semaine, 30 minutes de sortie à l'air libre. Donc effectivement, les conditions de détention ont été extrêmement difficiles, et dans ce cas-ci, on imagine pour l'otage le plus âgé, qui aujourd'hui a 72 ans, sa compagne ayant la moitié de l'âge, ça doit être probablement un peu plus facile physiquement, si on peut parler de facilité. Cela étant, il n'y a pas de sévices physiques visibles, mais les traces psychologiques d'une détention de 3 ans dans des conditions terribles, sans savoir ce qu'il en est et sans possibilité de parler à quiconque de l'extérieur, la famille, etc. Ça laisse des traces que l'on a du mal à envisager parce que c'est innommable.
Alors, vous parliez de monnaie d'échange, justement, c'est la question, hein. Quel est le prix qui est payé pour cette libération? En septembre dernier, le chef de la diplomatie iranienne avait affirmé que les deux Français seraient échangés contre une Iranienne arrêtée en France, Mahdieh Esfandari, qui est détenue depuis plus de 6 mois pour apologie du terrorisme en ligne. Qui est-elle?
Alors, une Iranienne qui a été arrêtée pour apologie et du terrorisme et qui était en attente de jugement qui devait avoir lieu bientôt et qui, elle, était en liberté. Donc, elle devait juste se présenter régulièrement aux autorités pour faire acte de présence. Et donc, elle fait partie probablement du deal, mais ce n'est qu'une partie du deal, puisque probablement les Iraniens vont négocier encore plus. Mais c'est d'après ce que l'on sait, elle fait partie du deal d'échange.
Est-ce que elle ou les gens de son profil font partie de ces fameux espions iraniens qui sont en Europe?
Donc je serais pas en mesure de l'affirmer parce que je ne connais pas le dossier complet de cette jeune femme, mais ce sont des influenceurs en tout cas. Ce sont les, elle fait probablement partie des influenceurs à la solde du régime iranien. Donc voilà.
Oui. On parle, Firouz Ennavandi, on parle beaucoup d'otages d'État hein, dans ce cas-là. Quelle est la stratégie iranienne avec ces otages d'État? C'est justement pour obtenir des libérations de personnes emprisonnées ici?
Oui, tout à fait. Donc, on appelle ça aussi la diplomatie des otages. C'est une expression qui devient maintenant courante, en tout cas pour l'Iran. Il s'agit pour l'État iranien, et ça à peu près depuis 1979. La première fois, ça a été les otages américains dans leur ambassade. Mais disons après d'arrêter et de condamner pour l'une ou l'autre chose. Souvent c'est pour complicité avec Israël, mais en tout cas les accuser d'espionnage ou d'autres choses et de les emprisonner. Parfois parce qu'il y a un échange particulier qui doit être effectué. Parfois, c'est pour de l'argent. Parfois, c'est pour faire envoyer des armes en échange d'armes ou de munitions diverses ou de parties d'avions, etc. Tout ça, évidemment, n'est jamais dit tel quel, mais on sait que pour la Grande-Bretagne et pour d'autres pays, ça a été le cas. Il y a eu des échanges de ce genre. Et puis parfois, ce n'est pas nécessairement pour un but particulier. On les garde pour les utiliser plus tard.
Ouais, on a également vu nous ici en Belgique avec
Oui.
le dossier Olivier Van de Castel que nous aussi on était impliqués et on était victimes de de cette diplomatie des otages.
Tout à fait, puisque on a échangé Olivier Castel contre un diplomate qui était lui avéré terroriste accusé et condamné pour terrorisme. Et donc l'échange a eu lieu. Ça a d'ailleurs créé pas mal de problèmes internes aussi à la Belgique politiquement, mais heureusement Olivier Van de Castel est revenu. Mais c'est toute une stratégie d'influence, c'est pour ça qu'on l'appelle diplomatie tout simplement des otages, qui est régulièrement utilisée, non pas seulement pour des ressortissants européens, mais des ressortissants un petit peu de tous les pays qui peuvent servir. C'est pour cela qu'il faut insister aussi que il ne faut pas partir en Iran pour n'importe quelle raison, même si c'est un beau pays et il y a d'énormes choses à voir, parce que vous risquez d'être arrêté pour un oui, pour un non, et donc après devoir être échangé entre contre des terroristes, contre des malfaiteurs et donc nuire aux autres Iraniens.
Pour conclure, Firouz Ennavandi, il y a évidemment maintenant depuis 10 ans ce fameux accord sur le nucléaire iranien signé en 2015. Est-ce qu'on peut lier ces deux dossiers, le dossier des prises d'otages et le dossier du nucléaire iranien? Est-ce que l'Iran fait pression sur les pays qui ont voté cet accord, qui font partie de cet accord, avec des prises d'otages d'État?
Les prises d'otages, elle sert de pression et de menace, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que cela arrivera, mais en lien direct et utilisé tel quel sur le nucléaire, peut-être, mais pas nécessairement.
Firouz Ennavandi, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio Judaïka. À bientôt.
Merci.